Bonjour mon ami, je suis très heureux que vous m'ayez rejoint. Je vais poursuivre un message que nous avons entamé la dernière fois. Pas d'inquiétude, si vous l'avez raté, celui d'aujourd'hui se suffit à lui-même. Pour certaines personnes, ce message est plus que controversé, mais il est tout à fait biblique. Si vous aimez la Bible, vous allez adorer.
Bonjour, je suis Bélez Conley. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à l'incertitude, qu'il s'agisse de problèmes financiers, de crises relationnelles, d'un problème de santé ou simplement de la découverte de votre raison d'être. Une chose est sûre, Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses.
Je voulais vous faire part de quelque chose que j'avais sur le cœur. Nous répondons à la question « Dieu appelle-t-il les femmes au ministère ? Dieu nomme-t-il des femmes à des postes de leadership au sein de son peuple ?» Bien sûr, pour répondre à cette question, nous devons consulter les textes bibliques. Si c'était possible, j'aurais aimé m'asseoir à vos côtés autour d'une tasse de thé pour en parler et consulter les Écritures ensemble, car c'est un sujet important. Dieu en parle beaucoup dans sa parole. Si Dieu en parle, nous devons le savoir. Nous ne pouvons pas trier sa parole en disant « ça c'est bien, ça pas vraiment ». Non, tout est important. La dernière fois, nous avons parlé de quelques femmes. Je voudrais mentionner trois femmes de l'Ancien Testament qui étaient toutes appelées prophétesses. Elles exerçaient le ministère de prophète. Elles comprenaient le plan et le dessein de Dieu, et elles transmettaient la pensée de Dieu au peuple de Dieu. L'une d'entre elles était Myriam, nous avons parlé d'elle. C'était la sœur de Moïse et d'Aaron. La dernière fois, nous avons aussi parlé de Déborah. Déborah n'était pas seulement une prophétesse. Nous avons lu qu'elle a prophétisé, qu'elle a prédit l'avenir avec beaucoup de précision, mais elle était aussi appelée juge. Elle rendait des jugements. Elle était juge en Israël. C'est la seule femme qui ait jamais atteint cette position, parce qu'elle y était appelée par Dieu et, évidemment, reconnue et approuvée par le peuple. Et ce fut un leader hors pair. D'un point de vue historique, elle fait partie de la catégorie de Jeanne d'Arc qui, quelques 27 siècles plus tard, conduira les Français à la victoire en chevauchant devant eux. Le nom de Déborah, qui signifie abeille, est tout à fait approprié car elle était très active. Elle récoltait du miel pour ses amis et avait un dard mortel pour ses ennemis. C'est ce qu'ont expérimenté les Cananéens. D'ailleurs, à la fin de son règne en tant que juge, il est dit que le pays fut en paix pendant 40 ans. Je prie pour que votre ministère, votre influence et votre contribution apportent aux gens un grand repos dans le Seigneur. J'aimerais passer à la suite plutôt que de prêcher la même chose que la dernière fois. Parlons d'une autre prophétesse prénommée Hulda. En 2 Rois 22, au début de l'histoire, nous trouvons un jeune garçon nommé Josias. Il devient roi de Juda à l'âge de 8 ans. Imaginez devenir roi à l'âge de 8 ans. Son père et son grand-père étaient tous deux idolâtres. Josias ne connaissait rien de Dieu. Israël était complètement perdu. Israël était rempli d'idoles. Le pays était entièrement livré à des pratiques païennes. Il a complètement abandonné Dieu. Même le temple était rempli d'idoles. J'aimerais prendre cette histoire au moment où Josias, quelques années plus tard, donne l'ordre de réparer la maison de l'Éternel et où le grand prêtre y trouve un livre de la loi. Le grand prêtre et d'autres personnes nettoient la maison de l'Éternel, ils font des réparations et trouvent un livre de la loi. Mais ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Ils sont à ce point éloignés de Dieu. Ils apportent ce livre au roi qui le lit et se rend compte qu'ils ont désobéi à Dieu, qu'ils l'ont irrité et que la colère s'abat sur Jérusalem et sur Israël. Ils vont demander conseil à Hulda, la prophétesse. Lorsqu'ils vont la voir, elle prophétise. Tout ce qui a été prophétisé dans ce livre va s'accomplir. C'est ce qui va se passer. La destruction et le jugement vont venir, mais allez dire au roi que, parce que son cœur a été tendre envers l'Éternel, parce qu'il s'est humilié, parce qu'il a pleuré et qu'il a déchiré ses habits, Dieu va bénir sa vie. Cela ne va pas s'accomplir de son vivant. Il ne verra pas cette calamité s'abattre sur le peuple ou sur le pays pendant sa vie. Voici le résultat. Voici ce qui s'est passé après qu'ils aient rapporté les paroles de cette prophétesse à Josias, qui est maintenant un jeune homme. Il est écrit en 2 Rois 23, 1 à 3. Le roi Josias fit rassembler vers lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les prêtres, les prophètes et tout le peuple, du plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et il conclut une alliance devant l'Éternel. Il s'engagea à suivre l'Éternel et à respecter ses commandements, ses instructions et ses prescriptions de tout son cœur et de toute son âme, en mettant en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple s'engagea dans cette alliance. Ensuite, il a parcouru tout Juda, tout le pays, et l'a purifié de tout vestige d'idolâtrie et de culte païen. Il a purifié le temple, il a brûlé toutes les idoles et a ainsi accompli la prophétie. Il a obéi aux paroles du livre jusqu'à rétablir la Pâque, qui n'avait pas été célébrée depuis 2 générations. C'est alors que se produit littéralement un réveil national. La nation revient à Dieu. Bien qu'on ne parle pas beaucoup d'elle, Hulda, la prophétesse, a joué un rôle important dans ce réveil national. Elle a été le pilier de tout ce qui s'est passé. Dieu s'est servi d'elle de manière étonnante. C'est une prophétesse. Elle utilise les dons de l'esprit. Elle dit ce que Dieu pense à son peuple. Pensez à cette femme, Hulda. À une époque où la nation, globalement, a sombré dans l'idolâtrie et tourné le dos à Dieu, elle n'a pas abandonné Dieu. Elle est restée fidèle à Dieu et s'est développée dans les choses spirituelles. Elle était respectée. Ces hommes auraient pu s'adresser à Jérémie, le prophète. Il était le contemporain de Hulda, mais ils avaient confiance en elle et ils respectaient son ministère. Elle a prophétisé avec exactitude sur l'avenir de Juda et sur l'avenir personnel de Josias. Elle a encouragé et inspiré Josias à obéir à Dieu et, ce faisant, a joué un rôle clé dans le retour d'une nation à Dieu. Avec elle se confirme une fois de plus le rôle important que les femmes peuvent jouer dans les plans de Dieu. Vous devriez d'ailleurs lire ce livre. Nous connaissons tous Ésaïe, le prophète qui a écrit le merveilleux livre d'Ésaïe. L'un de mes chapitres préférés de la Bible est Ésaïe 53. C'est le grand chapitre rédempteur qui parle de Christ, de son sacrifice, de la raison pour laquelle il s'est sacrifié et de ce qui a été acheté pour nous grâce à ce sacrifice. Saviez-vous que la femme d'Ésaïe était aussi une prophétesse? C'est ce que disent les Écritures en Ésaïe 8. Elle parlait sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Les dons de l'Esprit opéraient dans sa vie, du moins la parole de connaissance, la parole de sagesse et le don de prophétie. Elle était également prophétesse. Poursuivons notre parcours. Franchissons une ligne et arrivons à l'époque où, juste après la naissance de Christ, nous lisons l'histoire d'une femme du nom d'Anne. Luc 2, 36 à 38. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, elle servait Dieu, nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Arrivée, elle aussi, à la même heure signifie que Marie et Joseph avaient amené Jésus au temple pour le présenter au Seigneur selon la loi. Arrivée, elle aussi, à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Anne est devenue veuve après 7 ans de mariage et a choisi de consacrer sa vie au service de Dieu en jeûnant et en priant. Elle était prophétesse. Elle était très sensible au temps divin et elle est arrivée au moment même où l'on a amené l'enfant Jésus. Elle a reconnu qui il était et elle a annoncé le Sauveur dans le temple, dans la maison de Dieu. Elle a parlé de Jésus aux autres, à ceux qui cherchaient la rédemption à Jérusalem. C'est extraordinaire. Après la résurrection, après le début de l'ère du Nouveau Testament, y a-t-il des femmes dans le ministère? Les femmes occupent-elles des postes de leadership au sein du peuple de Dieu? Là encore, nous devons nous référer aux Écritures et je répondrai par l'affirmative. En Actes 2, 16 à 18, Pierre cite la prophétie de Joël, le jour de la Pentecôte. Il dit ceci en Actes 2, 16 à 18. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. En Actes 21, 8 et 9, nous lisons l'histoire de Philippe, qui avait 4 filles vierges qui prophétisaient. En 1 Corinthiens, Paul définit le don de prophétie de la manière suivante. Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. Les 4 filles de Philippe ont parlé aux hommes pour les édifier, les encourager et les réconforter. C'est ce que fait le don de prophétie. En Romains 16, 1 et 2, Paul écrit à l'Église de Rome. Or, je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est servante à l'Assemblée, qui est à Sancrée, afin que vous la receviez dans le Seigneur comme il convient à des saints et que vous l'assistiez dans toute affaire pour laquelle elle aurait besoin de vous, car elle-même aussi a été en aide à plusieurs et à moi-même. Paul appelle cette femme Phébé, une servante, ce qui correspond au mot grec diakonos. Elle est diacre dans l'Église ou diaconesse. Elle a servi les saints à Sancrée, une ville portuaire proche de Corinthe. Paul utilise ce même mot lorsqu'il dit qu'elle est une servante de l'Église. Nous lisons cela en 1 Corinthiens 3:5 où Paul dit « Qui donc est Apollos et qui est Paul ? Des serviteurs par lesquels vous avez cru ? Il s'agit du même mot grec. » Paul utilise le même mot à plusieurs autres endroits pour se désigner et désigner d'autres personnes qui prêchent l'Évangile. Phébé, cette servante, cette diaconesse de l'église de Sancrée, exerçait son ministère auprès des gens. Paul dit « recevez-la ». C'est un terme d'honneur. Cela signifie l'accepter, accepter son ministère. Il dit « assistez-la », ce qui indique qu'elle doit assumer un rôle de leadership. Il a dit « assistez-la », ce qui signifie qu'il faut lui céder la place, se tenir à ses côtés et l'aider en assumant un rôle de soutien. Paul dit qu'elle est une aide, ce qui signifie littéralement aider, protéger ou défendre. Nous ne savons pas de quelle manière, mais il est certain qu'elle était une femme importante dans l'Église. La plupart des spécialistes s'accordent à dire que c'est elle qui a porté l'épître de l'apôtre Paul à l'Église de Rome. Je remercie Dieu pour Phébé. Nous poursuivons notre lecture en Romains 16, 3 à 5. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre dans le Christ Jésus, qui, pour ma vie, ont exposé leur propre cou, auquel je ne rends pas grâce moi seul, mais aussi toutes les assemblées des nations, et l'assemblée qui se réunit dans leur maison. Prisca et Aquilas étaient mari et femme. Ils étaient compagnons de travail en Christ. Paul dit qu'ils ont risqué leur vie. Sans eux, nous n'aurions pas le Nouveau Testament tel que nous le connaissons aujourd'hui, car Paul n'aurait pas accompli son ministère. Nous n'aurions pas les Écritures telles que nous les connaissons aujourd'hui. Ils ont tous les deux joué un rôle important. Paul parle de l'Église dans leur maison. Ils ont probablement été pasteurs de cette Église et l'ont dirigée. Nous ne pouvons pas en être certains, mais il est logique que si quelqu'un d'autre avait été le leader ou le pasteur de l'Église dans leur maison, Paul l'aurait mentionné ou reconnu lorsqu'il parle de saluer l'assemblée qui se réunit dans leur maison. Il ne l'a pas fait. Je pense que nous pouvons supposer, encore une fois, qu'il dirigeait cette Église. 1 Corinthiens 16:9 mentionne également l'Église dans leur maison. En Actes 18, 24 à 26, nous constatons que Prisca avait certainement la capacité d'enseigner. Elle avait le don d'enseigner. Actes 18, 24 à 26. Et il vint à Éphèse un juif, nommé Apollos, alexandrin d'origine, homme éloquent et puissant dans les Écritures. Il était instruit dans la voie du Seigneur, et étant fervent d'esprit, il parlait et enseignait diligemment les choses qui concernaient Jésus, ne connaissant que le baptême de Jean. Et il se mit à parler avec hardiesse dans la synagogue. Et Aquilas et Priscilla, l'ayant entendu, le prirent et lui expliquèrent plus exactement la voie de Dieu. Cet homme, Apollos, est déjà éloquent et il est puissant dans les Écritures. Il enseigne avec diligence. Il lui explique les Écritures, la voie de Christ, la voie de Dieu, avec plus d'exactitude. Dieu merci pour Aquila et Dieu merci pour Priscilla. Nous poursuivons la lecture du livre des Romains. Romains 16, 7. Saluez Andronique et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité qui sont distingués parmi les apôtres, qui même ont été avant moi en Christ. Paul dit ils étaient croyants avant moi. Andronique est un nom masculin et Junias est un nom féminin. À l'époque, ce nom n'était pas donné aux hommes. Nous ne savons pas s'ils étaient frères et sœurs ou simplement frères et sœurs dans le Seigneur ou mari et femme, mais Paul dit qu'ils se sont distingués parmi les apôtres. D'après la façon dont elle est structurée dans la langue originale, nous pouvons interpréter cette phrase de deux manières différentes. Soit ils étaient tous les deux apôtres, Andronique et Junias étaient tous deux apôtres, ou alors ils se sont simplement distingués parmi les apôtres. Les apôtres les connaissaient bien. Mais tout comme Paul, ils ont souffert pour leur foi en Christ, pour leur fidélité envers l'Évangile. Ils étaient ses compagnons de captivité, mais ils étaient manifestement des membres éminents de l'Église. En Romains 16, 12, Paul dit « Salut Tryphène et Tryphose, lesquels travaillent dans le Seigneur. Saluez Persis, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé dans le Seigneur. » Ces trois noms sont féminins. Ce sont tous des noms de femmes et elles ont toutes beaucoup travaillé dans le Seigneur. En Philippiens 4, 2 et 3, Paul dit « Je supplie Évodie et je supplie Saint-Tiche d'avoir une même pensée dans le Seigneur. Oui, je te prie, toi aussi, vrai compagnon de travail, aide celles qui ont combattu avec moi dans l'Évangile, avec Clément aussi et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. » Ces femmes, Évodie et Saint-Tiche, ont combattu avec l'apôtre Paul et elles étaient des compagnes de travail. Il a demandé de les aider. Apparemment, Évodie et Saint-Tiche étaient des leaders importantes de l'Église et elles étaient en conflit. Elles ne voyaient pas les choses de la même manière. Le diable est prêt à tout. S'il ne peut pas démolir l'Église, il essaiera de semer la confusion dans l'Église. Là où il y a des conflits, il y a aussi toutes les œuvres du mal. Les conflits ouvrent la porte au diable. Apparemment, ces femmes essaient d'arranger les choses. Et Paul dit, aide-les, offre-leur ton aide afin qu'elles puissent se mettre d'accord et arranger les choses. Nous ne pouvons pas ignorer le fait que Paul a dit qu'elles étaient des compagnes de travail. Elles ont beaucoup travaillé dans l'Évangile et elles ont travaillé avec lui dans l'Évangile. Ce sont des femmes de renom, des femmes à respecter. Des femmes qui, à un degré ou à un autre, nous ignorons ce qu'elles ont fait, mais elles ont manifestement joué un rôle important au sein du peuple de Dieu. Dieu oint-il les femmes pour le ministère et les place-t-il dans des rôles importants au sein de son peuple? Oui, il le fait. Psaume 68:11 dit « Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont légion. » La Bible Darby l'exprime ainsi. « Le Seigneur donna la parole, grande fut la foule des femmes qui répandirent la bonne nouvelle. » C'est une traduction exacte car le mot « messagère » n'est pas seulement un mot hébreu de genre féminin, il signifie littéralement « femme ». Le Seigneur dit une parole et les femmes de bonne nouvelle sont légion. Dieu utilise des femmes pour proclamer sa parole. Si vous y réfléchissez bien, à qui Christ s'est-il révélé en premier, en dehors des apôtres? À la femme, au puits, en Samarie. Elle dit, « Quand Christ viendra, il nous annoncera tout. » Sa vie était un désastre. Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle, je suis Christ. » Elle court à la ville et dit à tout le monde, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Beaucoup de gens, d'hommes, dans cette ville, ont cru en Jésus à cause de sa parole. Ils sont sortis en masse. C'est là que Jésus dit, « Levez les yeux et regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson. » Il parlait évidemment de cette foule de personnes qui venaient à sa rencontre. Les apôtres revenaient après avoir acheté de la nourriture, et ils regardent ces gens et ils disent, « La moisson est prête et elle est mûre. » Qui les a stimulés? Qui leur a apporté le message en premier? C'était la femme au puits. La femme pécheresse que Jésus a croisée dans sa vie, qui l'a changée et à qui il a parlé d'un puits d'eau vive qui pourrait jaillir en elle dans la vie éternelle. Le docteur Isaac Leiser, qui traduit ce verset dans le psaume 68:11, dit quelque chose d'intéressant. C'était un grand spécialiste de l'hébreu. Il le traduit ainsi. « Le Seigneur a donné d'heureuses nouvelles. Elles sont publiées par les messagères, une foule nombreuse. » Après avoir parcouru tout cela, et j'aurais aimé vous en dire beaucoup plus si j'avais plus de temps, mais en voyant clairement que les femmes peuvent servir et avoir un rôle de leader dans le ministère, je dois dire que toute femme mariée avec une famille a un appel plus élevé, et cela concerne son foyer. C'est un appel supérieur. Le mariage et l'éducation de vos enfants sont votre première priorité. Voici les priorités de votre vie. Premièrement, votre relation personnelle avec le Seigneur. C'est la première. Deuxièmement, votre mari, si vous êtes appelé à cela. Troisièmement, vos enfants et votre foyer. Quatrièmement, tout autre appel. Je suis appelé en tant que prédicateur et pasteur d'une église. Ma première relation, cependant, est ma relation personnelle avec Dieu, puis avec ma femme, puis avec ma famille, et enfin avec les autres. Je ne peux pas prendre soin de l'épouse de Christ si je ne suis pas capable de prendre soin de ma propre épouse. Je ne peux pas m'occuper de la maison de Dieu si je ne peux pas m'occuper de ma propre maison. L'appel au ministère, l'appel au leadership ou tout autre appel doit se faire sans négliger l'appel plus important, qui est celui de prendre soin de sa famille et de son foyer. Écoutez les versets suivants en Tite 2, 3 à 5, tirés de la Bible en français courant. De même, dis aux femmes âgées de se conduire en personnes qui mènent une vie sainte. Elles doivent éviter les propos malveillants et ne pas être esclaves du vin. Qu'elles donnent de bons conseils. Qu'elles apprennent aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. À être raisonnables et pures. À prendre soin de leur ménage. À être bonnes et soumises à leur mari. Afin que personne ne fasse insulte à la parole de Dieu. Si vous avez des enfants à la maison et que vous vous sentez appelé à prêcher ou à jouer un rôle de leader et que votre mari travaille, disons que vous n'êtes pas célibataire, mais que vous êtes marié et que vous avez une famille. Le plan de Dieu n'est pas que quelqu'un d'autre élève vos enfants. Le plan de Dieu n'est pas que vos enfants soient livrés à eux-mêmes et qu'ils doivent passer leur journée seuls pendant que vous répondez à votre appel. Le plan de Dieu n'est pas qu'une institution ou d'autres personnes élèvent vos enfants. Ils sont votre première priorité, votre appel le plus important. Vous devez répondre aux besoins de votre mari, de vos enfants, de votre famille et ensuite du ministère. Dieu ne demande à personne de sacrifier sa famille pour pouvoir prêcher. Dieu n'a jamais demandé de mettre ma famille sur l'autel du sacrifice et de la sacrifier. Je me souviens que lorsque Jeannette, ma femme, a eu Harrison, notre premier fils, et que nous avons eu des jumeaux peu de temps après, ma femme, qui aime enseigner la Bible, a été appelée à différentes réunions de femmes, et elle a refusé ces appels pendant plusieurs années. Certains ont été offensés, car ils ne comprenaient pas. Elle avait la conviction que son premier appel était d'être là pour nos enfants, pour notre famille, pour notre foyer. Dieu nous a bénis grâce à cela. Oui, les femmes peuvent exercer un ministère et Dieu peut les utiliser pour accomplir des choses importantes. Nous l'avons vu dans les Écritures, mais le mariage, les enfants et le foyer passent avant tout. J'espère que cela a été une bénédiction pour vous et que j'ai stimulé votre réflexion. Étudiez pour connaître ce que Dieu approuve. Soyez comme les Béréens qui, chaque jour, examinaient les Écritures pour voir si ces choses étaient vraies. Que la parole de Dieu soit l'autorité finale dans notre vie. Je prie pour que le meilleur de Dieu vous parvienne toujours. Chers amis, Jésus vous aime. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes épuisé? Vous traversez une crise et vous ne savez plus quoi faire? Procurez-vous le livret gratuit « Saisissez la force de Dieu » de Bayless Conley. Vous y trouverez 4 étapes qui vous aideront à aller de l'avant avec une force renouvelée. Il vous suffit de vous rendre sur bayless-conley.fr/force. Vous pourrez y télécharger gratuitement le magazine au format PDF. Vous allez voir, Dieu vous réserve de bonnes choses.
Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier? Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.